Lire la parole de Dieu. Si vous êtes derrière une colonne, vous pouvez vous dégager pour mieux voir. Ayez cette liberté. Le message, c'est à qui ai-je ouvert la porte ? Nous allons faire trois lectures. La première se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3e. À partir du verset 14e. Écrit à l'ange. Un ange ne reçoit pas de lettres, mais au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour voindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie ou je discipline tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, non point seulement à l'Église, mais aux Églises. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 19e. Paul avait promis de venir chez les Corinthiens. Des circonstances ont fait qu'il n'a pu venir. Et les Corinthiens ont manifesté leur désaccord avec Paul en disant « Tu dis que tu viens et tu ne viens pas. Tu es un instable dans tes décisions. Alors si c'est ça, l'Évangile, eh bien on peut remettre tout cela en question. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Puis une dernière lecture dans le livre des Cantiques, chapitre 5, le verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. À qui ai-je ouvert la porte? Le Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, dit: voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Il était à l'intérieur auparavant, mais là, il se retrouve à l'extérieur du cœur. Et le Seigneur est celui qui frappe à la porte de notre cœur. Et dans notre dernière lecture, cette relation de l'âme, nous avons lu: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et l'homme intérieur ne dort jamais. Il y a toujours quelque chose en nous qui ne sommeille jamais. Elle a reconnu: c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. La voix du bien-aimé, ces mots sont des mots nobles, c'est: ouvre-moi ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Puis-je dire, c'est notre relation entre époux, épouse. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Ça peut être la voix du papa ou de la maman qui s'adresse à son fils ou sa fille avec des mots si riches. Mais la voix là du bien-aimé, elle veut se faire entendre. Et comme réponse à ce bien-aimé qui vient charger de grâce, de bénédiction, elle dit « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Et mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Puis au bout d'un certain temps, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, j'ai ouvert à mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu, j'étais hors de moi quand il me parlait. » Je dirais qu'elle est passée à côté de quelque chose. L'un et l'autre ont pu entendre la voix, mais il n'y a pas eu une communion plus profonde. Le Seigneur Jésus dit « Si quelqu'un entend ma voix, nous le savons, le Seigneur a révélé, lui le bon berger, que nous qui étions en dehors des brebis d'Israël, l'heure viendrait où nous entendrions la voix du bon berger. Nous avons tellement entendu de voix avant de venir vers le bon berger et d'entendre la voix du bon berger. Et cette voix, nous avons été marqués par la voix douce, agréable du bon berger. Si quelqu'un entend ma voix, et le livre de l'Apocalypse nous dit que Jean se trouvait dans l'île de Patmos, il est âgé d'environ 90 ans, il est en résidence, surveillé à cause de sa foi, mais un dimanche du ciel de gloire, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises dont il va énumérer les églises. » Et nous avons lu celle de Laodicée. Mais Jean dit « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et ce quelqu'un va prendre la parole, va dire, écrit donc, il reçoit l'ordre d'écrire dans un livre ce qu'il voit encore. Je crois que ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Dieu donne sa parole par écrit. Vous avez remarqué du commencement de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, le nombre de fois où Dieu dit « écrit ». Écrit, écrit. Dieu est lié à lui-même. Il est lié à sa parole. Il est lié avec les personnes, les frères et sœurs. Écrit. Il le dira, l'apôtre Paul, la parole de Dieu n'est pas liée. Paul était en prison à cette époque. On avait mis cet instrument dans la prison à cause du message qu'il délivrait. Mais il dira, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. La parole de Dieu, elle va, elle circule, elle fait du bien. La parole de Dieu, elle n'est pas liée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mardi soir, à la réunion de prière, nous nous sommes arrêtés sur Salomon qui, dans sa prière, lors de la dédicace du temple, aucune parole n'est restée sans effet. Tout ce qui a sorti du cœur de Dieu ne restera jamais sans effet. Tout ce qu'il sort du cœur de Jésus ne restera jamais sans effet. Tout ce qui sort de la bouche par le Saint-Esprit ne restera jamais sans effet. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu n'est pas lié à l'histoire, il est lié à lui-même, il est lié à sa parole, et dès que la parole est sortie de sa bouche, elle portera son fruit. C'est pourquoi restons attachés à cette parole. Lisons la parole de Dieu. Nourrissons notre âme, notre foi de la parole de Dieu. Ne dénoncez pas la parole de Dieu. Attention à nos différentes lectures. Les livres les plus beaux ne sont pas inspirés, mais la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Et c'est cette nourriture spirituelle qu'il nous faut garder. Lisons, relisons la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3e, verset 1er, nous avons lu, voici ce que dit l'Amen. Ce matin, chacun d'entre nous a pu dire à la louange de son frère, de sa sœur, Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Parce que nous avons eu un moment de louange, d'adoration, et nous avons confirmé ce qui a été dit par l'un ou par l'autre. Amen, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Mais voici ce que dit l'Amen. Et l'Amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'Amen. L'Amen, c'est-à-dire la solidité, la certitude, la fermeté, la vérité, c'est lui qui prononce le dernier mot sur toute chose, c'est lui et par lui en qui les promesses de Dieu sont accomplies. Dans notre seconde lecture, l'apôtre, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est en Dieu qu'est le oui, c'est en Dieu qu'est en Jésus-Christ qu'est le oui. Comme je l'ai fait remarquer, Paul ayant changé ses plans, eh bien, les Corinthiens, qui avaient un problème avec le fondateur, disent, mais l'évangile est-il inspiré, celui que tu délivres, du fait que tu es variable dans ton oui, dans ton non. Et à partir de là, il dit, mais toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui. C'est pourquoi encore l'amen. C'est-à-dire les promesses de Dieu, elles s'accomplissent, elles sont oui en Jésus-Christ, et c'est pourquoi encore l'amen. Et là, c'est la personne de Jésus est prononcée par nous à la gloire de Dieu, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est merveilleux, Dieu nous affermit en Christ et qui nous a oint. Nous avons l'onction de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Et je remercie, et nous remercions le Seigneur pour la qualité spirituelle de ce que nous avons vécu dans les chants, dans les dons spirituels et dans la scène. Ce sont des moments sacrés pour nous. C'est Dieu qui nous a oints. Et c'est Dieu aussi qui nous a marqués d'un sceau. D'un sceau. Vous avez remarqué, quand vous faites une promenade dans un bois, il arrive que beaucoup d'arbres sont abattus. Ils sont là pour être enlevés, pour aller vers une destination. Et là, il y a un sceau dessus. Et on sait que ce sceau, c'est la propriété de quelqu'un. De la même manière, nous avons été marqués par le sceau de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes le sceau de Dieu. Personne ne peut retirer ce sceau de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Et bien aimé, il a mis les arts de l'Esprit dans notre cœur. Il y a une différence entre les arts et un acompte. Si vous allez dans un endroit que vous achetez quelque chose, vous versez un acompte et vous faites des arts, c'est deux choses différentes. Et Dieu a mis les arts de l'Esprit de Dieu. C'est plus qu'un acompte. Les arts de l'Esprit sont là déjà. Et à fur et à mesure de notre marche, nous entrons dans les bénédictions spirituelles. Mais quand nous serons avec lui dans la gloire, nous aurons pleinement cette plénitude de l'Esprit de Dieu, les promesses de Dieu se seront toutes réalisées. Alors bien sûr, je dis toutes les promesses. Même si notre corps retourne à la poussière de la terre, si nous ne passons pas par l'enlèvement de l'Église, l'apôtre Paul parle de la rédemption de notre corps, de la résurrection de notre corps. Ce corps mortel, un jour, revêtira l'immortalité. À qui as-tu ouvert la porte? L'Église de Laodicée avait connu des temps glorieux. Paul parle des chrétiens de Laodicée. des temps magnifiques. Et là, dans les différentes églises, nous sommes environ à 35, 40, 45 ans d'existence. Et là, ces frères et sœurs vivent l'inconscience de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est. Tu dis, mais moi je te dis que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu es une grande malade spirituelle. Parfois, il nous est arrivé de traverser la vallée de la maladie. Et ça a été tellement violent que pour moi, personnellement, je n'ai pas toujours réalisé la gravité de la maladie. Et je me croyais bien. Mais maintenant, je me dis, j'étais vraiment malade. Et donc, le Seigneur va révéler. Tu offres le triste spectacle d'une chrétienté qui a perdu sa puissance, qui est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Mais le Seigneur, dans sa bonté, veut révéler à cette nouvelle génération de chrétiens telle qu'il est. Telle qu'il est. Une nouvelle génération de croyants était à l'œuvre dans les églises locales. Ce n'était plus la génération qui s'est convertie à la Pentecôte ou juste après. Vous savez que c'est en 1930 dans notre nation que le mouvement de l'esprit s'est fait par le missionnaire M. Manu Scott qui venait pour apprendre le français et l'anglais pour se diriger vers la République, maintenant, du Congo. Et puis Dieu, immédiatement, a fait des prodiges et des prodiges et des miracles, des repentances, et le feu s'est embrasé dans les réunions, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Les hommes et les femmes qui avaient des problèmes avec l'alcool rentraient chez eux, les litres de vin étaient vidés dans les éviers, tout cela, c'était une régénération extraordinaire. C'était le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, une nouvelle génération de croyants dont nous formons sont à l'œuvre dans les églises locales. Ce n'est plus la génération qui s'est convertie en 1930 ou après. Mais ce qui est important, Dieu n'est pas lié à l'histoire, il est le Dieu qui est lié à lui-même, à sa parole. Et vous et moi, nous reconnaissons que nous avons besoin d'un réveil, d'une visitation de Dieu pour chaque génération et dans chaque génération. Parce que nous formons beaucoup de générations au milieu de nous. Et quelle que soit notre génération, notre âge, c'est quand je me suis converti, j'entendais déjà que il n'y avait plus le même feu de l'esprit. Et on nous parlait, en réalité, de ce feu qui s'éteignait. Mais moi, je venais de me convertir, je n'étais pas responsable. Ah oui, pas. On n'est pas responsable de tout, quand même. On n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on est irresponsable. Mais nous réalisons que le Seigneur a cette nouvelle génération dans cette Église. Ils veulent Le Seigneur veut qu'elle soit marquée par cette communion renouvelée avec lui. Et bien aimé dans la foi, il faut que notre Église, nos Églises, notre mouvement connaissent un réveil spirituel. Il produit quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes conscients que parfois, l'état de notre cœur ne correspond pas aux exigences de la parole de Dieu et de son Esprit Saint. Je disais, à qui as-tu ouvert la porte? C'est avec beaucoup d'affection, d'amour spirituel que je dis ces choses. Mais est-ce que, bien aimé, il n'y aurait point un sommeil spirituel, une négligence spirituelle, une indifférence spirituelle, un cœur partagé, des épreuves qui ne nous ont point épargnés, des mauvaises nouvelles? Depuis dimanche, que de mauvaises nouvelles ai-je appris. Mais cela me pousse et nous pousse à nous aimer encore plus les uns les autres et à prier Dieu de tout notre cœur pour cette visitation de la parole de, parole de Dieu. Il faut examiner à la parole de Dieu nos cœurs pour réaliser si nous sommes conformes. Et le Seigneur se révèle. Il veut que de cette crise, un peuple de vainqueurs se lève. Et le Seigneur a besoin de vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous communique cette victoire. C'est lui qui fait des victorieux. De vaincus que nous étions, nous sommes victorieux. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec Dieu. » C'est merveilleux d'être sensible à la voix de l'Esprit, à la voix de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a rachetés, appelés, et qui nous garde pour toujours en Christ. C'est lui qui nous a oint du Saint-Esprit, de sa présence de régénération, et des dons spirituels qu'il nous accorde pour servir. C'est à Dieu que nous appartenons, et c'est lui qui nous garde et nous gardera. Les juges, les rois, les sacrificateurs, les prophètes de l'Ancien Testament étaient consacrés par l'onction d'huile. Et chacun d'entre nous connaît l'histoire de Samson, sa naissance, l'exaucement de prière, aussi cet enfant qui grandit, qui est béni, qui a une mission. L'Esprit de Dieu commence à l'agiter, dit la Bible. Mais Samson est un homme avec un cœur partagé, entre le charnel, le spirituel. Il fait ce qui lui plaît. dans le sens qu'avec ses yeux, ben, il choisit ce qui lui plaît. Dans tous les domaines, vous lisez. Et puis, il savait qu'il était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il avait tellement joué avec le péché qu'il disait « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Il arrive que lorsque malheureusement l'on pêche et qu'on ne se repent pas, on est surpris que Dieu continue de nous bénir. Et on se conforte avec le péché, avec ce verset biblique. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce que disaient les Romains, mais ça vaut la peine de pécher, puisque la grâce, elle surabonde. Et bien sûr que Paul leur donne l'explication. Et Samson, il dit « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. N'allez pas dire que l'Éternel se retire de vous. C'est Samson, c'est son histoire à lui. C'est pas votre histoire. Et donc les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans la prison de Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain, il tournait la meule dans la prison. Cette déchéance spirituelle, personnelle, l'a amené à la honte, l'aveuglement et l'esclavage. Il faut nous souvenir d'une parole de Jésus. Matthieu 26, 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Chacun d'entre nous, nous avons expérimenté l'esprit, la bonne disposition, mais combien la chair que nous croyons crucifiée, elle ressuscite rapidement. Et elle a ses exigences, mais nous ne sommes point redevables. Et Samson, dans cette situation, les Philistins veulent faire une fête. Ils veulent rendre grâce à leur Dieu, à Dagon. Ils veulent se réjouir parce que notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et Samson, pendant qu'ils sont en train de se moquer de lui, c'est la dernière fois, c'est les dernières paroles de Samson avec l'Éternel. Il invoqua l'Éternel et dit « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins à cause de mes yeux. » À cause de mes yeux. Mais la Bible dit que cependant les cheveux de sa tête commençaient à croître. C'est-à-dire que là, il y a eu un travail. Un travail de retour vers Dieu. Ne vous laissez pas pousser les cheveux. C'était le vœu pour les hommes consacrés. Bien-aimés. Et tout à coup, il y a un retour vers Dieu. Il a eu le temps de réfléchir. Et puis on sait ce qu'il a fait. Je veux mourir avec les Philistins près des deux colonnes. Et là, il a été exaucé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait misérablement échoué, mais il savait d'où venait sa force. C'était sa consécration à Dieu. Je termine en disant, voici, je frappe. Nous pouvons avoir nos prisons, comme celle de Gaza, des prisons sataniques, nos prisons de découragement, nos prisons d'amertume, de souffrance. Pour avoir toutes ces choses. Mais le Seigneur nous a rendus libres. Ne descendons point à la pente. Il faut que nous montions la et que nous soyons renouvelés dans le Saint-Esprit. Et puis, les personnes qui viennent, qui s'approchent de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a permis de me ramener ça dans ma mémoire, ce témoignage, il y a plus de 30 ans de cela. Un homme jeune, en dessous de 30 ans, était marié. Il avait un enfant. Il y a eu séparation d'avec son épouse. Il avait fait une tentative de suicide. Et par un témoignage d'une de nos sœurs, il est venu. Je suis allé prier pour lui. Et puis il est venu à nos réunions. Il y a un travail merveilleux s'était fait en l'espace de quelques semaines. Je m'étais rendu voir son épouse. J'avais parlé avec elle. Nous étions allés aussi plus tard avec son mari, dont ils étaient en instance de divorce. Et puis, il n'y avait aucune espérance de réconciliation. Il y avait toujours ce garçon qui était vraiment, qui avait été marqué par le Seigneur. En l'espace de 3 semaines, quelque chose s'était fait en lui. Et puis le jeudi après-midi, je le vois encore me saluer à la table publication. Et il me dit à dimanche, mais il ne me dit pas ce qu'il va faire. Où il va? Sinon je l'aurais accompagné. Il va frapper à la porte. On lui ouvre la porte. Il y a une conversation, mais qui ne progresse pas. La porte se referme. Il va chez la porte, chez ses parents. Il ne dit rien. Il prend la corde. Et à quelques kilomètres d'ici, on l'a retrouvé. Je suis allé au service funèbre. Je ne fais pas les services de personnes qui ont fait l'acte irréparable. Il y avait plein de jeunes qui étaient là. Il y avait les familles respectives qui étaient là. C'était le jour de la conciliation au tribunal. J'ai servi le texte. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Et j'ai dit, vous regardez tous le cercueil. Et voudriez faire, mais il est trop tard. Et ensuite, la personne m'a dit, je suis la dernière personne qui l'ait vue. Je lui ai dit non et je regrette. Et cette femme, elle a dit, nous en étions arrivés là parce que dans mon enfance, j'ai eu un cas d'inceste. C'était là le problème. Nous sommes dans un monde chargé. Nous sommes dans un monde chargé. Nous sommes dans un monde chargé. Faites attention, bien-aimés. Prions les uns pour les autres. Que les chaînes tombent. Que les prisonniers tombent. Que la grâce de Dieu se manifeste. Attention, n'allez pas dans les groupes autoproclamés. Des scandales arrivent et arriveront encore. Faites attention, prévenez. À qui ai-je ouvert la porte? Et ce matin, à qui vais-je ouvrir la porte? Au Seigneur qui frappe. À lui qui frappe avec tant d'amour, qui veut marquer votre vie du surnaturel, qui veut marquer nos familles, nos enfants du surnaturel. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa grâce. Amen. Gloire à Dieu.